Bonjour à toutes et à tous, enchanté de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106,6 de Campus Lille ou www.campuslille.com. Au menu de cette émission aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec nos motards engagés. On commence avec Christophe. Christophe, bonjour.
Bonjour Lamiche, bonjour à toutes.
Alors, c'est une tradition, tous les premiers dimanches du mois, hein, tu nous donnes un aperçu du sommaire du Moto Magazine.
Voilà.
Et donc aujourd'hui, celui de juin.
Absolument, mois d'été, mois de. Bah, on pourrait parler voyage, hein, y en a qui rentrent de voyage, mais il y en a qui vont repartir. Donc, un numéro classique, hein, traditionnel, 132 pages, voilà. Des motos que je présenterai dans une séquence, des retours aussi sur l'actu, mais ça, je le partagerai avec Jean-Yves. Les nids de poules, les fameux nids de poules, les œufs de Pâques. Hein, et puis on reparle des ZFI.
D'ailleurs, c'est même plus des nids de poules, c'est des nids d'autruche maintenant.
Oui, de ptérodactyles.
Oui. Alors, évidemment, c'est une émission de moto, mais bon, vous savez, je pratique aussi le vélo, mais même combat. Hein, c'est sincèrement se prendre. Nous, on y claque aussi des jantes hein, sur des.
Et puis, je te dis pas les trottinettes.
En ville, oui.
Alors, t'imagines, hein, avec le diamètre des roues.
Avec le diamètre des roues qui est inférieur à la profondeur du nid de poule, c'est la mort assurée.
Hein, donc, ce dossier-là, un dossier sur les ZFE, puisqu'il y a eu un retour de manif, donc on y reviendra. Et puis un an après, enfin un peu plus d'un an maintenant, parce que le 15 avril 2024, c'était la mise en place du contrôle technique, donc un appel au boycott de la FFMC, et donc un bilan qui est fait après un an, et justement, enfin c'est pas un débat, mais un duel, si on peut dire, sur une question par rapport aux réponses donc, du coordinateur national pardon, de la FFMC et du directeur de Securitest, donc...
Un escroc.
Pas la même lecture des propos et des questions qui leur sont posées. Et puis, si on a le temps, on parlera du futile ou utile en matière de consommotard. Et puis, je reviendrai aussi sur un article que j'ai réalisé donc, à l'Enduropal Vintage. Je vous propose un making-of. J'ai 30 ans de correspondance de presse et sincèrement là j'ai fait quelque chose que j'avais jamais fait. 4 pages de magazine, je vous expliquerai comment on produit ça. Alors, et on aura le plaisir d'accueillir Xavier Couteau, sacrément vintage ou carrément vintage. Il nous parlera de sa moto surtout et de sa préparation.
Très bien, merci Christophe. Jean-Yves, bonjour.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais enfiler ma casquette, moi, d'animateur AFDM, parce que dans l'édito du Moto Magazine, il y a justement un article sur la formation continue. Et la moto, c'est la survie en moto, plus exactement. C'est aussi une question d'automatisme, c'est-à-dire de subodorer les dangers les sentir avant d'en être conscient pour pouvoir y échapper. Et donc ça, c'est les automatismes, ça s'entretient. Si vous restez 6 mois sans rouler l'hiver, c'est pas étonnant que vous plantiez dès vos premières sorties.
Eh bien oui, ça c'est l'Association européenne des constructeurs de motocycles hein, et la Fédération internationale de motocyclisme qui a lancé cette idée formation continue.
Parce que dans la vie professionnelle, vous avez toujours des formations. Normalement, vous avez toujours des formations pour améliorer vos techniques et votre savoir. Eh bien en moto, c'est pareil. Les gens, très peu le font. Et c'est dommage parce qu'ils oblitèrent leurs chances de survie.
Oui, et tu vas nous parler aussi de cette fête de la moto.
Alors là, justement...
Ce n'est pas fête de la moto, hein, c'est enfer.
C'est enfer, c'est rouler. Justement. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont troublés quand ils cherchent sur Internet fête de la moto, parce qu'ils mettent F-E-T-E.
Ah, c'est pas bon, oui.
Et c'est pas bon, ils trouvent rien, donc c'est F-A-I-T-E. Donc ça va se dérouler à Neuf-Berquin et puis je vais vous parler
sur le week-end,
de ce que vous pourrez y trouver le 21 et 22 juin.
Très bien.
Donc ça vous permettra de prévoir un peu votre week-end à l'avance.
Très bien, merci Jean-Yves. Vous écoutez Campus Lille sur le 106,6 ou www.campuslille.com, je vous rappelle. À la technique, on salue notre pilote d'émission, Laurent. Et on se retrouve dans quelques instants, juste après notre premier morceau de musique. Et à tout de suite. Arrêt sur image dans le Motomag du mois de juin. Jean-Yves,
oui.
On revient donc sur cette opération œuf de Pâques pour Nid de Poule.
Exactement, j'ai participé à l'opération organisée par la 59. Et effectivement, on a signalé à plusieurs occasions des nids de poules vraiment faramineux, notamment sur le grand boulevard qui passe devant le grand stade. Effectivement, ça a été réparé dans la semaine, mais uniquement ce qu'on avait marqué. Il y en avait un autre, un nid de poule à 5 mètres, lui, il n'a pas été fait. Donc je conseille fortement à tous les motards qui se sont plantés à cause d'un nid de poule ou d'un ralentisseur hors norme, d'attaquer la municipalité avec un bon avocat, vous risquez de vous faire des billes.
Oui, alors Jean-Yves, il faut peut-être rappeler que c'est une opération qui a été initiée par la FFMC au niveau national.
National.
Justement, dans Motomag de juin, il y a un rappel de toutes les actions qui ont été menées. 31 antennes de la fédération ont participé à l'opération. 167 retombées médiatiques. Bon, chaque année, c'est un peu plus. Je pense qu'il y a une adresse mail
Un pour site, le signaler.
Voilà, qui reprend tous les signalements. Et puis, on s'y perd un peu dans les compétences. En fait, tu parlais des communes, mais il y a des départementales. Il y a des nationales.
Il y a des nationales, oui. En général, d'ailleurs, les nationales sont un peu mieux tenues que les départementales ou les vicinales, parce que justement les vicinales relevant de la commune, les communes étant étranglées par l'État qui a supprimé les subventions d'entretien des routes, les communes ne peuvent pas tout faire. Et donc elles se contentent de mettre des patchs là où elles peuvent. Mais ce n'est pas une raison pour laisser s'instaurer un état de fait pareil. Donc attaquer en justice les communes si vous êtes plantés à cause de leur infrastructure. Attaquer aussi en justice pour les nationales et autres.
Ouais, et cette mobilisation au niveau départemental, ça représentait combien de...
On était 8 bécanes, alors parce qu'effectivement, les voitures continuent à vivre leur vie, donc faut le temps de peindre le nid de poule, de mettre un peu de paille, de mettre des œufs, de faire la photo. Il faut faire un service d'ordre. Mais en général, j'ai même l'exemple du côté de Fâche-du-Ménil, au champ. Là. Un mec en fourgon, camionnette, qui s'est arrêté. Oui, vous avez raison, attaquez-les. C'est pas normal d'avoir des états de route pareils. C'est dégueulasse, c'est pas normal. Donc je crois que les bagnoles souffrent aussi, de toute façon. Quand vous avez un nid de poule qui est quasiment le diamètre de votre roue, votre bagnole ne s'en sort pas indemne.
Et dans la Sarthe, en fait, ils ont des idées. Hein. Ils ont mis une poule en chocolat dans le trou.
Oui,
hein.
C'est... Nous, on avait...
Parce que là, c'est même plus un nid de poule. C'est carrément... On a l'impression qu'il y a eu un tremblement de terre, que la terre s'est écartée. C'est impressionnant.
On avait une poule en peluche.
Oui,
et un peu de paille.
Et dans les Alpes-Maritimes, il y a même un motard en poule. Donc, c'est un peu plus difficile.
Il y a eu des retombées médiatiques, c'est sûr, mais est-ce que les pouvoirs publics, ça leur en a fait bouger une sans toucher l'autre? C'est pas sûr.
Oui, alors justement, je parlais du signalement. Donc la première porte d'entrée, c'est la commune. Après, si ça dépasse le cadre communal, au niveau départemental...
C'est plus difficile.
C'est déjà un relais. Ouais. À la limite, c'est demandé... Sinon, sur le site de la FFMC, je pense qu'on trouvera l'adresse.
L'adresse du site recensant tous les gros défauts d'infrastructure.
Oui, parce que là, je la trouve pas dans l'article qui est consacré. Par contre, il y a un bon relais de toutes les organes de presse qui ont relayé nid de poule avec des œufs. Niveau communication, ça passe
et ça parle beaucoup et ça touche tout le monde, même les automobilistes. Alors, je parle pas des trottinettes. Quand vous avez un trou qui est deux fois plus profond que le diamètre de votre roue, vous ne rushez pas, c'est pas impossible d'en réchapper. C'est le vol
de la chirurgie esthétique, c'est ça?
Ouais.
Oui, mais même en ville. Alors, par exemple, moi je roule beaucoup à vélo, donc dans l'île, mais je suis aussi en moto et en voiture. La sortie, par exemple, de l'autoroute A25 qui permet de rentrer dans l'île au port fluvial, elle a été refaite complètement. Et là, on est sur une voie autoroutière ou une bretelle autoroutière. Je ne sais pas quelle est la compétence particulière. Mais quand on roule dans l'île, dans les boulevards et autres, il y a effectivement des trous. Et là, à vélo, c'est pareil. Tu parlais des trottinettes. Je dirais que les dommages ou les risques de chute sont effectivement...
Et il y a pourtant une municipalité soi-disant écolo qui devrait avantager le vélo. Mais non, et pousse les vélos au suicide ou à la mort certaine.
Ça fait combien de temps que ça dure, cette opération Nid de Poule, Jean-Yves ?
Je dirais bien une dizaine d'années.
Et pourtant, rien ne change.
Ah, ça, non, si, ça change, ça empire.
Voilà, donc est-ce que ça sert vraiment à faire ce genre de choses ?
Non, mais ça, si tu te laisses massacrer sans rien dire, celui qui te massacre, ça le justifie dans sa conduite. Si tu protestes tant soit peu, peut-être que ça réveillera dans son esprit embrumé quelques velléités d'autocritique.
Et on voit que les retombées ont été très nombreuses cette année, 167 recensées, soit en moyenne une augmentation par antenne concernée. Et ce, alors malheureusement pour lui, et pour nous aussi, ceux en dépit du décès du pape qui a conduit des modifications de choix éditoriaux pour certains journaux. Oui, parce que voilà, quand le pape décède, tout ce qui est à côté, on n'en parle plus.
Bah oui, et puis le plus, le pape, il ne fait pas de la moto.
Il ne fait pas de la moto, voilà. C'est bon pour les Nipoules.
Oui, alors sur l'actualité de la FFMC et de la moto, effectivement, c'est un des premiers sujets. Et puis à suivre, donc, les LFE, la manif et le contrôle technique, un bilan après un an. On en parle tout de suite.
De toute façon, les Nipoules, rendez-vous l'année prochaine, c'est toujours à Pâques. Hein.
Ah bah oui, c'est un marronnier.
C'est un marronnier. Hein. Oui,
quand les cloches passent.
Allez, voilà, allez, on passe un morceau de musique, on se retrouve juste après.
A thousand words, but it can sometimes hide the truth. A vision as it appears can alter throughout the years and hide those ideals of your youth. You can try and run and hide when the going starts getting rough, but there ain't no need for telling lies, 'cause the truth is bad enough. Some other day, it wouldn't work out that way. That's the way the story goes. Victims of circumstance leave everything up to chance. How it ends, nobody knows. You never know when time's gonna call your bluff, but there ain't no good in alibis, 'cause the truth is we'll
truth is bad enough.
Actu toujours dans le motomag de juin, Christophe, la mobilisation continue pour les aidés-feux.
Oui, alors
enfin, contre les aidés-feux.
Oui, hein. Tout à fait. On vous en parlait déjà le mois dernier, puisqu'il y a eu une manifestation le 6 avril dernier, donc organisée par la FFMC, mais en association avec un collectif hashtag GEU. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, c'est Alexandre Jardin, voilà, écrivain, qui a fédéré avec la FFMC autour d'eux et des politiques. Il faut rappeler que Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, est motard. Hein, et donc, il est venu expliquer également sa position, rappeler un petit peu les tenants et les aboutissants. Hein,
parce que, et Sacha Soulier aussi, est un élu.
Tout à fait. Alors, on s'y est perdu un peu là au mois de mai, parce qu'en fait, déjà, il faut savoir que le magazine de juin, il sort autour du 15 mai. Donc, forcément, l'actualité parlementaire, elle est déjà un peu derrière nous. Et puis, depuis, il s'est dit beaucoup de choses sur la fin de vie.
Ouais.
Et donc, c'est venu un petit peu éluder le débat, justement, sur les ZFE.
Mais heureusement,
mais ça va ressortir.
L'actualité parlementaire, à la vitesse où il se débrouille, les députés, finalement, ils nous rattrapent.
Oui, alors, justement, on apprend dans l'article que la reprise, en attendant la reprise des sessions parlementaires, donc pour ce sujet, un débat, il faut dire que plus de 2700 amendements ont été déposés. Bon, alors je ne sais pas comment ils font pour débattre sereinement.
Hein, je crois que la directrice. La présidente du. Les députés en sucre, en a, de par sa volonté.
Voilà. Elle en a supprimé 1500.
Elle en a retoqué 1500.
Ouais, une décision régalienne. C'est ce qu'on appelle la démocratie.
Voilà. Alors ça explique effectivement pourquoi ça traîne en longueur. Et comme dit donc le Philippe Guillaume qui écrit, ça risque de s'éterniser encore et encore.
Exactement, parce qu'il y a aussi d'autres sujets très brûlants, comme la fin de vie, comme la dette abyssale.
Moi je reviens des coups poteaux les jaunes, hein, là, c'était le week-end dernier. Hein, et encore, il y a des gens, des motards qui ne savent pas ce que c'est que les aidés-feux. Hein. Ce sont des gens qui n'habitent pas dans des agglomérations qui sont concernées pour ces aidés-feux. Hein.
Oui,
mais tu leur dis aidés-feux, oui. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà.
Et sur la route, justement, entre Dijon et Lille, vous n'avez pas été alerté par quelques...
Non.
Affichages.
Non, ils n'ont pas vu.
On a été alerté par du gasoil par terre, dans les ronds-points, mais mis à part ça, pas aidé des feux. Mais
vous êtes passé tellement vite, voilà, vous donc avez été arrêté dans votre
un
course.
Un petit rappel sur ces zones à faible émission. Hein. C'est pas comme ça qu'on les appelle à la Fédé.
Hein,
exclusion, hein, c'est ça. Hein, voilà.
Forte exclusion sociale.
Il faut rappeler que les véhicules d'avant 80,
tous les 16, critères,
98, 96, 96, hein,
96 pour les essences et 2000,
vont être exclus.
Et 2001 pour les diesels.
Voilà. Donc il n'est pas question de vendre ton véhicule parce que de toute façon il ne vaut plus rien. Mm-hmm. C'est ça ?
Oui, par contre, tu as toujours besoin de lui pour aller bosser.
Mais tu as besoin d'un véhicule pour aller bosser ou pour te déplacer quand même. Voilà. Oui, donc, comment faire ?
Il y a un renfort justement aussi de l'Association des maires de France, puisqu'en fait, on voit dans les territoires concernés une évolution quand même, un rétropédalage.
Oui.
Le bon exemple, c'est la métropole lilloise. Je vous rappelle qu'au début du Covid, c'était la totale.
Hein, c'était vraiment la saignée à blanc.
Et puis, plus on est allé, moins ça allait.
Ils se sont rendu compte quand même que le département du Nord n'est pas parmi les plus riches des départements. Et que les gens avaient besoin de leur bagnole et que les priver d'aller au boulot, c'est vraiment de l'exclusion sociale. Et de toute façon, comme ils disent leur slogan, c'est pour permettre aux riches qui habitent le centre-ville d'évacuer les pauvres à l'extérieur.
Alors là, c'est bien. Alors, maintenant, c'est écrit. Hein.
Voilà,
souvenez-vous, parce que nous, les aidés-feux, ça fait au moins 5 ans qu'on en parle toujours. Dans cette émission, on dit c'est vraiment c'est antidémocratique. C'est
dégueulasse.
Obligé de c'est un manque de liberté.
L'article rapporte l'échange que Alexandre Jardin a eu avec la ministre de la Transition
écologique. J'ai aussi souligné l'échange avec Xavier Bertrand, dont tu parlais tout à l'heure, Christophe.
Alors, vas-y,
toi, vas-y.
Alors, Alexandre Jardin, la même chose, alors. Justement, sur le propos que tu viens de tenir, Jean-Yves, par rapport donc, aux gens qui habitent, hein, ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter en ville, qui habitent effectivement dans des zones périurbaines, qui n'ont pas de transport en commun ou relativement peu intéressant au niveau des heures de déplacement, prennent leur voiture. Problème, c'est que, et c'est effectivement cette scission ou cette coupure créée, fracture créée par les ZFE, va amener des gens à devoir changer de véhicule, des gens qui n'ont pas forcément le pouvoir d'achat pour acheter, surtout quand on voit aujourd'hui le prix des véhicules d'occasion. Et donc, dans l'échange qu'il a eu avec la ministre, il lui parle des prix des véhicules d'occasion. Elle prend son téléphone.
Oui, bah alors c'est la même chose que moi. On a souligné la même chose.
Et elle téléphone à des garagistes pour avoir
un grossiste en voiture d'occasion pour se renseigner. Et alors, franchement, on tombe sur la tête.
C'est
quand même incroyable.
On élu n'importe qui. On a élu n'importe qui à la tête de la France. C'est bien le problème. Mecs qui sont complètement déconnectés de la réalité de la vie de tous les jours.
Donc, ce sujet mobilise toujours et encore. Pour l'instant, les collectivités sont à même de prendre une décision, puisque, en fait, je vois ce qui s'est passé en métropole lilloise. On affiche finalement les taux de pollution qui rentrent dans les clous par rapport aux exigences européennes. Donc du coup, il n'y a plus que quelques grandes pics, agglomérations qui restent. Mais Grenoble, Lyon, Strasbourg, peut-être dans une moindre mesure, Rouen et Paris, évidemment, Grand Paris, qui est déjà pratiqué.
Sans compter qu'on peut se poser des questions sur la fiabilité des indications de pureté d'atmosphère. Parce que là aussi, y a les mesures sur le terrain et puis il y a la communication au public. Et la communication est fortement teintée par l'esprit politique de l'autorité communicante.
Alors vous avez vu, il y a le dessin de Nicolas Vous l'avez vu ça ? Page 15.
Absolument, c'est juste à la fin de l'article.
Si vous voulez faire une cure de particules fines, c'est très simple. Prenez les transports en commun. Et surtout le métro, c'est là qu'il y en a le plus. Et je pense qu'effectivement, quand je vais à Paris, que je prends le métro, ça sent. Il y a une drôle d'odeur. De renfermer.
Une odeur suisse généris.
Oui.
Et Xavier Bertrand, qui revient en fait sur la notion d'exigence européenne, par rapport. Et c'est ce que disait aussi la FAFMC. On nous demande de mettre en place des actions qui, effectivement, vont dans ce sens-là. Et donc, en l'occurrence, il y a de multiples façons, autrement qu'avec les ZFE, qui permettent de réduire l'impact.
Rappelons que la pollution due au transport n'est que de 25%. Donc s'acharner sur une si faible portion, ça serait beaucoup plus rentable de s'acharner sur 75%.
On dit toujours c'est à cause de l'Europe, c'est l'Europe. On peut rien y faire. Mais si, parce que David Bertrand explique qu'il ne faut pas forcément mettre ça sur le dos de l'Europe. L'Europe, elle nous a demandé de prendre des mesures pour la qualité de l'air. Mais les Français, ils sont toujours en premier plan pour prendre des mesures, mais sans savoir ce qui va se passer après.
Sans regarder les conséquences.
Pour revenir à la moto, ces ZFE concernent essentiellement les voitures. Pour l'instant, on a de la chance. Il y a très peu de territoires en France, j'entends, où la moto est concernée, puisqu'elle ne rentre pas dans le champ. Je crois qu'il n'y a qu'à Toulouse, me semble-t-il, où les motos étaient concernées au même titre que les voitures. Mais même à Bruxelles, ma connaissance a vérifié. Mais il faut avoir déclaré ses véhicules.
Oui, donc il faut avoir des accès Internet.
Absolument.
Si t'as pas de téléphone portable, si t'as pas d'ordinateur et pas d'accès Internet, Jean-Yves, tu ne vis pas.
T'es un contrevenant toute ta vie.
Consulter ses comptes en banque, il faut un téléphone portable.
On parlera des systèmes, de guidage, d'émission. Oui, t'as intérêt à avoir un téléphone.
Tu regardes pas ton compte en banque.
On passe à un morceau de musique.
Ouais.
Et après, on parle contrôle technique.
Absolument.
Nick Poul, ZFE et contrôle technique. Dis donc, on n'a pas fini d'en parler.
Ça remplit une vie de motard.
Ça remplit une vie de motard. À tout de suite. Après le morceau de musique. Du Motomag de juin, du sommaire de Motomag de juin aujourd'hui dans l'émission des motards sur Campus Lille. Christophe, on va parler du contrôle technique déjà un an.
Oui, alors effectivement, on reste que dans l'actu motocycliste. Hein, donc y a plusieurs pages et notamment effectivement un dossier sur le bilan un an après le contrôle technique. Je rappelle que depuis le 15 avril 2024, la loi prévoit donc le contrôle technique de toutes les catégories L. Alors ça regroupe depuis la mobilette jusqu'au gros cube et les voiturettes.
Les voiturettes aussi.
Tout ce qui est immatriculé.
Absolument.
Et donc le Solex,
les volets Solex. Solex.
Alors le dossier est intéressant parce qu'il pose 10 questions qui permettent déjà d'apporter des réponses aux questions que les gens se posent par rapport à ça, concernant le boycott, précisément, puisque la FFMC, rappelons-le, a appelé dès le début au boycott du contrôle technique. Et donc, ces questions.
Oui, je te pose la question. C'est comme ça qu'on devait faire. Oui, je te pose. Le boycott du CT est-il légal? Oui, effectivement, Christophe. Alors réponds-nous. Est-ce qu'on peut boycotter ce fameux contrôle technique?
Alors, faut le boycotter.
Voilà, Jean-Yves de la Fédé nous dit oui, il faut.
Ce positionnement, Jean-Yves, c'est.
Jean-Yves.
Il faut le boycotter parce que la désobéissance civile, c'est un droit constitutionnel.
Ah, c'est inscrit dans la Constitution. Ouais. Jean-Yves,
à partir du moment où il y a des connards au pouvoir qui vous imposent des trucs absolument invraisemblables, il ne faut pas se laisser faire.
D'accord. Il est venu avec ses affiches et ses banderoles. Et donc, effectivement, l'action non violente, le risque légal est très faible.
Action non violente, il ne faut pas commencer à tout casser
sur les voies publiques. Il faut signaler que j'ai fréquenté pas mal de CRS et de gendarmes ces temps-ci suite aux formations de reprise de guidon et autres. Ils sont tous contre.
Ah, bon.
Donc, si vous restez aimable avec le gendarme...
Alors, justement, voilà, alors, restez. Alors,
c'est,
deux.
C'est la question 2.
Voilà, voilà. Je voulais te poser une question, Christophe. Que risque-t-on en cas de contrôle des forces de l'ordre sans contrôle technique valide ?
Eh bien, bonne question. Merci de me l'avoir posée. C'est une amende de quatrième catégorie.
Ah, quand même ?
Eh oui, 135 euros forfaitaire.
Oui.
Alors, si tu es un peu rapide pour la payer, c'est que 90 euros.
Oui. Donc, c'est le prix du contrôle technique.
Oui, enfin, c'est pas partout à ce prix-là. Mais,
statistiquement parlant, tu as autant de chances de.
Et l'amende majorée, alors je ne sais pas si c'est en cas de récidive, mais l'amende majorée, c'est 375 euros. Là, ça commence à piquer. Hein. Mm-hmm. Bon, alors.
Il ne faut pas faire deux fois piquer pour un contrôle technique.
Ben oui.
Si tu n'as pas de chance.
C'est vraiment la faute à pas de chance. Ouais,
franchement, il y a un truc qui s'appelle Photoshop. Hein, vous photocopiez le bazar, vous mettez votre numéro d'immatriculation.
On coupera au montage. Donc,
bon, ça c'est pour au cas où. Hein, au cas
mais
où.
Que risque-t-on ? Parce qu'on se pose aussi la question de la rétention administrative du certificat d'immatriculation et l'immobilisation du véhicule. Bon, on nous répond dans Moto Magazine que c'est exceptionnel. Donc, effectivement, il faut vraiment, comme tu l'as dit Jean-Yves, se prendre la tête avec une relation particulièrement tendue avec les forces de l'ordre pour te trouver... Bon, si tu vas les titiller, bah, forcément...
Ils répliquent, c'est normal.
Voilà.
Quand tu leur donnes une baffe, ils ont tendance à sortir le taser.
Restons zen, et vous risquez pas grand-chose.
Moi, Christophe, j'ai une question à te poser, une question qu'on m'a posée aussi personnellement, tu vois, même plusieurs fois. Mon assurance peut-elle refuser de même d'indemniser si je n'ai pas passé le contrôle technique ?
Alors,
la bonne question.
Oui, alors c'est hautement improbable. Tout simplement, la quasi-totalité des cas, le contrôle technique n'a aucun effet sur l'assurance. Maintenant, ça ne vous empêche pas d'interroger votre assurance, mais ils ont une obligation d'assurer. Il faudrait vraiment qu'il y ait un expert de l'assurance qui aille chercher.
Alors, dans l'article que j'ai aussi, c'est la réponse que j'ai. Déjà, il y a la mutuelle et motards qui ne demandent pas le contrôle technique. Hein. Mm-hmm. Hein, et donc, il faudrait que ce soit vraiment, s'il y a un accident, il faudrait prouver que c'est à cause d'un défaut de la machine.
Bah, une moto sans frein, comme on a vu en Grèce.
Sans frein, alors. Voilà.
Comme on a vu en Grèce. Frein,
voilà. Alors, évidemment, là, on peut dire, effectivement, écoutez, là, vous exagérez, vous voyez sans frein.
Sans doute, mais bon, on n'est pas expert. Mais on peut imaginer.
Mais même sans être expert, on peut imaginer, on doute qu'une moto sans frein. C'est pas
ça
terrible.
Peut être dangereux.
Ça peut être dangereux.
À la FDM.
Ça s'appelle un vélo.
Jean-Yves,
encore. Mais c'est vrai, on en a vu. Hein.
Ouais. Bien.
Autre question. Je sais pas, une question un peu. Alors, y a-t-il des dérogations ou des cas où le CT n'est pas obligatoire, Christophe ?
Quasiment pas.
C'est confidentiel.
On nous dit juste que les trials et les enduros dont les pilotes sont licenciés FFM sont exemptés de contrôle technique parce qu'on considère qu'ils roulent sur voie privée, mais qu'il faut qu'ils puissent aller de voie privée en voie privée en passant par la voie publique.
C'est bon pour Xavier. Voilà. Xavier qui est avec nous, qui vient nous rejoindre. Tu vois, t'as pas besoin de contrôle technique pour rouler avec ta moto.
Est-ce que tu le savais, ça ?
Non.
Eh ben, tu apprends quelque chose
aujourd'hui.
Est-ce que tu as
écouté l'émission des motards Radio Campus Lille
pour apprendre des choses. C'est ça qui est important, c'est apprendre des choses. Alors une question à la 8, tiens. Elle est un peu con cette question.
Oui.
Que faire si mon véhicule est déjà passé au CT ? Est-il trop tard pour le boycott ? Il est con le mec ou quoi ?
Non mais. Tu l'as peut-être passé le contrôle technique pour vendre ta moto.
Oui,
auquel
alors,
cas, tu ne l'as plus.
C'est pas pareil. C'est pas pareil.
Cas, tu ne l'as plus.
C'est ça, on pourra finir avec ça. Hein, parce que là. Et quel recours, situation. Ah oui, quel recours ont été déposés contre le CT et où en est la situation juridique ? Ça, c'est peut-être important, ça, effectivement,
alors,
de connaître.
Les recours ont été déposés donc, par la FFMC, la FFM et des particuliers au Conseil d'État. Bon. Et il faut savoir quand même que c'est le même Conseil d'État qui avait autorisé la mise en place du contrôle technique. Donc le Conseil d'État ne va pas désavouer.
Il ne va pas se contredire.
Quand ça va dans le sens de leur intérêt, si. Ça ne les dérange pas.
Ah, bon. Tu penses que quand ça fait mal au portefeuille, ça...
il y a une jurisprudence.
Non, mais avec les copinages qui entrent les associations écolos de Paris et le Conseil d'État, on peut franchement se demander s'il y a vraiment des... Il est impartial.
Alors, justement, la fin de la réponse donc à cette question, c'est qu'on glisse là du terrain juridique vers le terrain économique. On en parlera tout à l'heure avec le débat. Et politique.
Oui, oui.
Et donc, effectivement, suivant le positionnement, je suis directeur d'un centre de contrôle ou je suis coordinateur national de la FFMC, la lecture du contrôle technique n'est pas tout à fait.
C'est intéressant parce que Jean-Yves, on m'a posé la question, ouais, mais la Fédéal ne fait plus rien pour le contrôle. Il n'y a plus de manif pour le contrôle technique.
Il y a toujours un appel au boycott. Hein, de toute façon, on le répète encore une fois.
Donc, oui, mais il n'y a plus de manif. Les motards, en fait, ils sont un peu... terre à terre, c'est la manif.
C'est vrai qu'en général, la manif, en fait, la plupart du temps, ça se finit en concours de celui qui pisse le plus loin, en wheeling et stoppy, donc c'est complètement contre-productif. Non, ce qu'il faut attaquer, c'est Thiollier auprès du Conseil européen, c'est vraiment attaquer les politiques à la base, faire du lobbying. Ce sera beaucoup plus efficace que des manifs où il y aura des connards qui font vroom vroom et qui feront peur à tout le monde.
Oui, mais alors justement, l'efficacité du boycott, elle passe aussi sur le traitement économique, parce qu'il y a des centres de contrôle technique qui reculent, qui au niveau de l'investissement... Alors ça, c'est dans l'interview croisée donc, entre le directeur de Securitest, Laurent Palmier... Et donc le coordinateur international de la FMC, Guénaël Lamoureux, on sait que les contrôleurs techniques ont des investissements à faire. Le sonomètre, notamment. Ils devaient l'avoir fait pour le 1er mars. Ça a été repoussé au 1er juillet.
Parce que les fabricants ne suivaient pas.
Voilà, tout à fait. Et concernant le célérimètre, là, c'est repoussé à 2026. Parce que justement, le directeur de Securitest nous annonce que pour permettre de faire un lissage fiscal... pour pas avoir deux investissements à faire la même année, 3 000 pour le célérimètre et 5 000 pour le sonomètre. Oui, donc on repousse.
Il est intéressant de constater que justement la loi peut être parfaitement souple pour les centres de contrôle technique et être très répressive pour le motard de base.
Voilà, alors tout à l'heure on parlait hors antenne aussi des statistiques. Il y a eu à peu près 1 million de contrôles qui ont été réalisés sur 2024, donc entre le 15 avril et le 31 décembre. Mais il faut prendre en compte qu'il y a un parc de revente relativement important qui, par obligation, donc, doivent passer les contrôles techniques. Donc on peut déjà retirer cela. Donc le calcul qui est fait par le coordinateur de la FFMC arrive donc à 15,6% du parc concerné, soit 84,4% de boycott par rapport donc aux millions de contrôles réalisés sur l'année 2024. Enfin, les 10 mois de 2024.
Un truc aussi à noter, c'est que finalement, le mec des Securitest, là, il reconnaît que c'est très utile de faire rentrer le motard dans son atelier pour qu'il prenne sa part de responsabilité si la moto est engagée.
Oui.
Il est abîmé.
Rappelons qu'il y a deux mois, il y a une moto qui est tombée sur un contrôleur dans les Flandres. Bon, je ne sais pas.
Ça devait arriver.
Dans quelles conditions?
On l'avait dit. Oui,
oui. Voilà. Un exemple parmi d'autres. Sur l'usure des pneus, il y a beaucoup de pneus qui sont lisses dans la bande centrale et qui a les sculptures en périphérie. Un contrôleur qui n'est pas motard, qui n'a aucune idée de ce qu'est une moto, il veut dire que le pneu est lisse. Alors que les témoins d'usure sur les flancs sont parfaitement normaux.
Ça, c'est page 28 dans le motomag. Oui,
donc retrouvez dans ces pages.
Et pour terminer, alors, la Fédé, éventuellement, serait. Alors, je ne sais pas s'ils seraient d'accord ou il faut lire entre les lignes, mais pour un contrôle technique à la revente, éventuellement, Jean-Yves.
Parce qu'il y a beaucoup de motards. Il y a beaucoup de motards qui sont incapables de juger l'état mécanique de leur bécane. Donc les gens s'imaginent qu'ayant passé le contrôle technique, la moto est saine. Or, c'est on ne peut plus faux parce que d'abord le contrôleur il n'est pas formé. Ensuite, le contrôleur n'est jamais responsable. Pénalement, s'il y a un défaut et que le mec se tue avec, il n'est pas responsable pénalement. Alors que le mécano du concessionnaire, s'il laisse passer un défaut, là, il est responsable.
Alors toi, ton avis, à la revente, éventuellement, si on devrait supprimer le contrôle technique...
Je serais plutôt d'avis à la formation mécanique des motards.
Ça, c'est autre chose. Voilà. Et pour terminer, question 10, parce qu'il y en a 10, hein,
les questions. Alors,
Jean-Yves, comment soutenir le boycott? Quelles actions sont mises en place?
Voilà. En assistant près de ses copains, hein, à boycotter, parce que si les centres techniques verront que ce n'est pas rentable, ils arrêteront de faire du contrôle technique moto. C'est le même coup que la vignette dans les années 80. Les motards n'achetaient pas la vignette. Ça finit par être oublié. C'est encore une fois de la résistance civile.
Ça sera peut-être même.
Et en dessous de la question 10, effectivement, il y a une vignette. Hein. Oui. Elle existe, cette vignette, Jean-Yves.
Ouais. Et Lamiche, tu as oublié la question 6, qui paraît essentielle quand même.
Oui.
Hein, c'est pourquoi ma moto ne passe pas le contrôle technique à la pollution. Donc, moi, je suis concerné avec une moto d'avant 99, mais il n'y a pas que ça. Une moto transformée, pour passer le contrôle technique, il y a obligation de la remettre en conformité. Donc c'est changer la peau, remettre les peaux d'origine, cartographie d'injection. Oui, alors en plus...
C'est complètement con, parce que moi j'irais, éventuellement, je pourrais aller au contrôle technique avec ma roquette. Le mec a strictement aucune idée si elle tourne à l'éthanol, il a aucune idée du pourcentage de CO2 qui est permis, parce que il a pas de base de données mécanique sur toutes les bécanes. Voilà. Donc c'est un contrôle encore une fois complètement inutile.
Bidon.
Voilà. Je pense qu'on a bien parlé du sujet.
Vous retrouverez.
Mais la lutte continue.
On a bien débordé le temps de l'enquête de la séquence. Voilà. Mais effectivement, retrouver toutes les questions. Là, on en a abordé quand même un bon paquet dans les pages 28 et suivantes sur le contrôle technique, dans le Mac de juin.
Après les morceaux de musique, on parle de quoi, Christophe?
Eh bien, on va aller revenir
le
sur le make-off
de ton article dans Motomag.
Oui, oui. Et puis, on a la chance d'avoir,
la vedette qui est en photo dans le Motomag de juin.
Et qui va nous raconter.
La vedette est avec nous ici, sur le plateau radio.
Et son après, son after.
Alors, tout de suite. Allez, après le morceau de musique. This will tell me that carrément vintage, ce Xavier Couteau, 76 ans, et sa CZ de 61 ans, Christophe.
Oui, alors...
Presque 140.
ça, c'est un livre des records, presque. Hein. Ouais. Donc, effectivement, on reviendra, Xavier, avec toi sur ta préparation. Donc, je resitue chaque année, je vais à l'Enduropal Vintage, donc couvrir pour Moto Magazine. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de présenter Philippe Charly il y a quelques années. Il fait d'ailleurs partie des quelques personnes que j'ai interviewées pour cet article. Hein, donc, je rappelle que j'ai écrit effectivement 4 pages dans le magazine de juin à la demande de la rédaction en chef. Oui, c'est un record, oui, personnel aussi, parce que je fais de la correspondance de presse depuis très très longtemps. Et sincèrement, je n'avais jamais fait aussi long. Et ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et donc, pour plusieurs raisons. Et donc, effectivement, j'étais présent à l'Enduropal. Donc, c'était le premier week-end de février, hein, le premier vendredi de février. Alors, bah, c'est pas le tout. Tu arrives là, le terrain est vaste, hein, la Miche. Il y a le parc. Non, mais il y a le parc relais, il y a les paddocks, il y a le point presse, il y a le coin VIP, il y a tous les food trucks qui envahissent.
Les expos.
Et puis, il y a les équipes de... d'accompagnement des pilotes,
d'assistance.
Ah, t'as pas le temps de t'ennuyer, hein.
Non, mais on peut.
Quand tu dois faire quatre pages pour Motomag,
j'ai que deux jambes et deux bras. Et il faut faire des photos,
il faut trouver les gens, interviewer.
Oui. Bon, bah, voilà. Bon, alors pour faire court, je suis allé au Petit Bonheur La Chance, et puis j'ai eu la chance de. Alors, il y en a que je connaissais, Xavier ici présent, Philippe que j'avais déjà eu l'occasion de présenter, Xavier qui avait couru il y a 5 ans. Non,
2016, oui, la dernière 2016, fois avec la CZ.
Mais il y a 5 ans, tu faisais l'assistance de Philippe.
Oui.
Voilà. Et je me souviens que tu nous avais annoncé, que tu allais effectivement concourir sur le vintage. Bon, ça a pris, il y a eu le Covid, il a fallu, tu nous parleras de la préparation de la moto. Enfin, voilà. Donc, je peux vous dire que pendant cette journée de vendredi, j'ai pas mal couru à essayer de pouvoir accéder au parc relais, notamment, de rencontrer au Petit Bonheur La Chance des gens qui acceptaient d'être pris en photo, interviewés, etc. Et donc, vous trouverez dans les pages l'interview de Flavie Vigneron, Julie Dutry, Jérémy Flamen, enfin, toutes ces personnes, Martin Waterloo, voilà, des jeunes, et Nolan Lys, évidemment, qui s'est bien classé et qui témoigne de son ressenti, donc de cette participation à l'Enduropal Vintage. Alors, il y a un encadré, un tiré à part, si on peut dire, concernant Xavier et sa moto. Parce que effectivement, bon, t'étais pas le doyen, mais pas loin. Mais alors la moto, là, elle était carrément doyenne. Hein.
Ah oui, ça absolument.
Et de loin. Oui, parce que oui. Je rappelle qu'il y avait 755 engagés. Je crois qu'il y avait une trentaine de motos des années 80 et avant. Et toi, t'étais la seule des années 60. Oui. Toutes les autres, c'est-à-dire les 720 motos qui restent, c'était toutes des motos des années 90.
Absolument.
Voilà.
Deux amortisseurs, hein.
Oui. Alors cette CZ, elle vient de loin. Tu l'as depuis quand?
Oh, je l'ai depuis une vingtaine d'années.
Voilà. Et c'est sa combientième participation? Alors,
c'est le deuxième Touquet. Le premier était en 1976.
2016.
Là, tu vois, je perds le ciboulot. 2016, pardon.
Voilà. Et donc, je te demandais, en préparant l'interview, mais elle morfle le pilote et la moto. Comment on se prépare techniquement et physiquement pour ce genre d'épreuve?
On se prépare pas.
Ah.
J'ai, depuis mon dernier Touquet, donc en 2016, je n'ai fait que deux motocross en intermédiaire. Et puis, j'ai fait le Touquet sans aucune préparation, sans entraînement. J'ai pris le départ alors que la moto n'avait pas roulé depuis plusieurs années.
Alors, il faut rappeler...
J'ai préparé, bien sûr, la moto.
Il faut rappeler aux auditeurs, quand tu dis motocross, c'est des roulages sur terre.
Oui, circuit de motocross.
Voilà.
Oui,
et le roulage sur sable, ça n'a rien à voir.
Absolument pas.
Je ne suis pas pilote, mais...
Absolument pas. Il y a bien des circuits un peu sablonneux en motocross, mais ça n'a rien à voir avec le Touquet. Et d'ailleurs, la CZ n'est pas faite pour rouler dans le sable. C'est des motos qui étaient prévues pour les circuits de motocross. Et autrefois, les circuits de motocross ne se faisaient pas dans le sable. Ils se faisaient à 98% sur des circuits de terre. Absolument.
Alors, comment as-tu vécu la course ?
Alors, je l'ai malheureusement mal vécu, alors que 2016 était parfaitement passé. Là, le problème, c'est que le circuit a été rallongé. La ligne droite, je crois, faisait un bon kilomètre de plus, voire deux, je ne sais plus très bien. Et donc, le retour était fait que de chicanes permanentes.
Pour le spectacle ?
Pour le spectacle, mais pour les motos, c'est épouvantable. Et donc, tu es dans l'obligation, compte tenu du nombre de pilotes qui sont dans les chicanes, tu n'arrives plus à te lancer avec la moto. Donc, tu es en permanence en train de freiner et de reprendre l'embrayage, de repasser des vitesses intermédiaires, de reprendre l'embrayage. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai trop sollicité mon embrayage et j'ai pété l'embrayage, voilà. À cause de ça, malheureusement, alors que en 2016, le circuit était bien plus roulant, beaucoup moins de chicanes, mais là, ça devient infernal. Les chicanes, ça ne devient même plus intéressant,
oui.
Parce que ça bouchonne, ça fait ralentir un point pas possible. Malheureusement, au moment où je voulais rentrer au parc d'assistance pour mon premier tour, j'ai juste une centaine de mètres avant, j'ai l'embrayage qui a lâché complètement.
Oui, alors c'est ça, ta déception est d'autant plus grande que tu avais quasiment fini et finalement t'es donc classé.
Voilà, puisque je te dis, à une centaine de mètres du passage devant le pointage, je ne pouvais même plus avancer d'un mètre. J'ai essayé de pousser la moto pour au moins essayer d'atteindre l'assistance, mais ça, c'était pas possible.
Alors Xavier, l'article est intitulé « Mais qu'est-ce qui les fait courir ?»
Ah, bah écoute.
Alors, à 76 ans, qu'est-ce qui te fait encore courir dans le sable ?
L'envie, le plaisir.
D'aller sable, en chier là-bas sur la plage, oui, du Touquet.
C'est un faible mot. Alors, surtout pour la moto, en fait. Mal pour la moto pour moi. On me dit, oui, mais t'avais pas le physique, tu t'es pas entraîné. Si, j'ai un bon physique parce que je m'entraîne toute la semaine, j'ai un bon entraînement physique. Et donc, ça n'a pas été. C'était pas un problème physique pour moi. Donc, c'est pour ça que je pouvais quand même me permettre d'essayer de le faire, mais surtout pour sortir la machine, pour montrer la moto aux gens qui, plus de la moitié des gens ne connaissaient pas la marque, ne pensaient pas qu'une telle moto pouvait rouler encore maintenant. Et puis aussi 50e anniversaire.
Oui, c'était c'était 50e, c'est compliqué. Hein,
deux annulations. Bref, ils l'ont annoncé comme ça. 50e anniversaire.
Comme ça,
je l'ai couru dans le temps avec sur mes vieilles KTM.
C'est ce qui t'a fait courir, participer en fait. 50e anniversaire, montrer la moto.
Les copains.
Malgré tout.
Dont tu fais partie.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Oui, qu'encore, t'as la niante.
Et puis être avec Quiquincourt. Et voilà. Présenter Quiquincourt. Ça, c'est important quand même. Hein, voilà. Mais bon, très déçu que la moto n'est pas terminée. Bon, mais malgré tout, je suis content d'avoir participé.
Et alors, justement, Lamiche, tu pourras aussi répondre, puisque toi, tu t'es engagé l'année dernière avec une KTM. Quand on sort de l'épreuve, on est rincé physiquement quand même, je pense.
Là, j'étais pas trop rincé puisque j'ai cassé. Quand on n'est pas préparé physiquement, oui, c'est pénible. On est rincé, effectivement. La Miche peut en témoigner.
Mais la moto.
Hein, je lui ai fait une belle photo à l'arrivée du Touquet l'an dernier. Oui. On voit que...
T'as encore la forme.
Malgré
tout.
Voilà.
Encore la forme. Alors moi une question encore, une toute dernière question, Christophe. Hein. Je sais que c'est toi qui as fait l'article, hein, mais bon, j'aimerais bien poser une question. L'enduro vintage qui ne devait être qu'un événement ponctuel pour dynamiser la station dès le vendredi, souvenez-vous. Est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable. Oui. Avec presque, ils ont dû limiter le nombre de concurrents.
800.
Sinon, ça continue, il va y avoir plus de monde en vintage que dans la course du dimanche.
Ça va commencer.
Oui. Et alors, le problème, c'est que ça a fait venir des motos n'importe comment. Ils n'ont plus rien de vintage.
C'est le problème. Il y a pas mal de vintage.
Quand on en parle de ce vintage, on n'en arrête pas d'en discuter de cette histoire.
Très amélioré.
Avec des fourches qui n'ont plus rien à voir.
Et qui comportent des éléments de moto moderne, comme des fourches, des amortisseurs.
Moi, je voulais ton avis.
Bon, malheureusement, le mot vintage n'a plus son sens.
Voilà.
N'a plus son sens.
Les motos préparées. Les motos préparées. Mais oui, là, j'ai commencé à vous présenter tous les amateurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Mais j'ai aussi interviewé Adrien Van Beveren, Arnaud de Mester, Sergei Potisek. Donc, tous ces gens-là courent sur Honda, Honda 500. Donc, c'est vraiment... La moto emblématique du Touquet, mais sur lequel il y a des dizaines de milliers d'euros qui ont été mis pour les mettre à nouveau, pour être effectivement...
Mais ils sont d'année, hein, ils rentrent bien dans les clous l'année. Hein.
Parce qu'il
y a une date limite.
96,
hein.
tout à fait. Et donc le mot de la fin, c'est quand même Adrien Van Beveren qui l'a. Il espère simplement qu'un jour Mikko Potisek viendra courir avec lui et qu'ils se tireront la bourre. C'est ça qui les fait revenir.
Oui. Donc, c'est pour principalement le spectacle.
C'est pour le fun.
Et je voulais profiter, excuse-moi.
Vas-y.
Christophe, je voulais profiter de féliciter Philippe, parce que Philippe a fait deuxième. Hein, dans sa catégorie V2. D'ailleurs, il n'a pas été félicité, on lui a pas fait de podium. Donc c'est là aussi que c'est bien dommage. C'est un vintage et un gars qui fait deuxième en V2 sur une 390 KTM, qui est mon ex KTM. Hein, j'ai vendu ma 390 KTM de biamortisseur 1982.
Oui, parce que tous les deux, c'est des cantilever.
Il n'était qu'une dixième, 10 ou 12 de sa catégorie, d'ailleurs les plus vieilles motos avant. Bien sûr, la mienne, bien sûr. Mais voilà un exemple de vintage qui n'a même pas été félicité, remercié. Hein,
voilà. Ça, c'est pas normal.
Ça fait mal au cœur.
Voilà. Et puis alors, qui c'est qui fait la mécanique sur ta moto ?
C'est le frangin.
Le frangin ? Emmanuel.
Oui. Quand on a préparé les motos de Van der Ven, on peut préparer la moto de.
Il a été mécanicien de Kees Van der Ven.
Il s'est occupé
pendant des années.
Beaucoup des motos de Van der Ven. Oui, lors de ses triomphes, ses 5 victoires consécutives.
Voilà.
Emmanuel, dit Manu.
Voilà, vous retrouverez donc des photos. Alors des photos qui qu'un coup. Hein, on peut citer quand même en premier. Et puis des photos aujourd'hui officines qui ont la primeur de prendre donc les photos au bord du circuit. Ce que nous n'avions pas, hein, donc nous on a fait avec les moyens du bord.
On peut s'amorcer et après on va parler de...
On fait une revue de presse des motos.
Les trails routiers, les rallyes.
Absolument.
Et Ducati, sportive, CF Moto et sportive R9.
Absolument.
Juste après le morceau de musique.
Lie.
Voilà, on termine ce sommaire du mag de juin, Christophe.
Oui, alors...
Avec les essais, les motos présentées.
Oui, une petite revue de presse là, de toutes les motos. Alors, je commence par les séries Indian. Vous savez que c'est toujours plus en puissance. Harley a augmenté la puissance de ses moteurs. Et bien, Indian lui emboîte le pas. Et donc, ils sortent une série Power Plus. Donc, Power Plus 112. Sur la gamme Touring et c'est le marketing, ça, on monte les tarifs et on fait des séries spéciales. Et donc là, on arrive à des tarifs entre 45 et 50 000 euros. Bon, c'est assez marginal. Hein. Bon, voilà, c'est dit. Alors juste en dessous, on apprend que Honda passe ses garanties à 6 ans. Donc c'est pas mal, hein. Je pense que dans les fabricants de motos...
S'ils font ça, c'est qu'ils sont sûrs dans leur machine. Hein.
Oui.
Finalement, Honda prend pas un gros risque, puisque en général, ils vendent leur bécane à 2 ans d'ancienneté. Donc,
mais elle est cessible, garantie est cessible. C'est dit dans l'article. Moyennant, évidemment, les préconisations et l'entretien dans le réseau.
Dans le réseau, hein.
Donc là, on en discutait hors antenne. Je sais qu'en matière d'automobile... Dès que les préconisations constructeurs sont respectées, on ne peut pas être exclu de la garantie. Normalement. Bon, voilà. Alors, vous vous souvenez que autre moto, les BMW. J'avais présenté donc les ventes du marché européen 2024 et je vous avais dit l'hégémonie de BMW avec sa nouvelle R1300 GS et les chiffres impressionnants quand même de ventes cumulées parce que la 1250 s'était pas arrêtée. Hein. Elle a été produite aussi en 2024 et donc ils étaient à plus de 8000 motos vendues sur quelques 20 000 BMW, ce qui est quand même assez énorme. Et donc là, comme chaque fois, ils déclinent donc, avec le moteur de la GS évidemment adapté, la 1300 cm3, en série R, donc en version R, RS et RT. Donc une déclinaison. Alors il faut rappeler que sur les routières grand touring, il n'y a plus grand monde, hein, puisque la FJR de Yamaha n'est plus au catalogue, la GTR de Kawasaki, la 1400 non plus, et la pan-européenne d'Honda non plus. Donc aujourd'hui, il reste la Goldwyn.
La Rocket,
la K16, mais en matière
elle
de
en fin de vie quand même parce qu'on n'en voit pas beaucoup.
Tout à fait. Et donc là, cette déclinaison rend cette moto donc incontournable sur ce segment-là. Hein, donc 145 chevaux, une version donc carénée. Alors, bon, on connaît la politique BMW, hein, on est sur des tarifs qui sont quand même premium, avec une politique d'option. Mais là où ils font très fort, c'est qu'il n'y a qu'une couleur, c'est le blanc. Et si vous voulez une couleur, il faut la payer en plus, et puis c'est gratiné.
Hein. Putain, une bombe de peinture, ça fait 10 euros. Si vous n'êtes pas capable de peindre votre moto vous-même, c'est vraiment lamentable.
Donc si le blanc ne vous sied pas, vous pouvez l'avoir en triple black pour 675 euros, en bleu Impulse pour 1545 euros, et l'option 719 en vert, donc comme la GS, à 2220 euros.
À ce prix-là, je préfère le plaqué or.
C'est incroyable qu'il y a des gens qui mettent encore autant d'argent hein, dans les motos.
Foutage de gueule.
Donc la nouveauté de cette série, hein, donc R, RS et RT, c'est un châssis inédit, un moteur porteur, une poutre centrale en acier, une boucle arrière en alu et un meilleur centrage des masses. Hein, on est sur une moto, alors suivant le modèle que vous retenez, entre 225 et 281 kilos. Et puis, un panel de boîtes robotisées, feu adaptatif, régulateur de vitesse adaptatif.
Et le prix toute option
on démarre.
Toute option,
il y a plus de prix. On démarre à 17 ou 24 000 euros suivant la série que vous retenez. Et puis tu peux rajouter un tiers du prix de la moto en option.
On est à 30 000.
Et là, je vois de quoi tu vas parler. J'ai posé la question à Jean-Yves.
Vas-y, pose.
Quand tu as acheté une Lamborghini édition, qu'est-ce qui te reste plus
qu'à faire
ou acheter
comme porte-clés, la Ducati qui va avec.
Dont on ne dira même pas le prix.
Qu'est-ce qui te reste à faire?
Parce qu'on l'a
une
pas.
Une belle bagnole comme ça dans mon garage, bon, t'es pas encore content. Non. Bah oui. Il te faut encore plus.
La Ducati.
Donc, achète quoi ? Ducati Panigale V4.
Très spécial. Siglé aux couleurs de la Lamborghini.
Mais là, on n'a pas le prix.
Donc, on n'a pas le prix.
Pour celle-là, là.
Bon, à mon avis, on est dans des motos à 6 chiffres, là, pas loin. Hein. Mais bon, pour les pauvres, il y en a. Alors là, il y a 63 motos qui ont été réservées aux propriétaires de Lamborghini. C'est qu'il y en a au moins 63. Et on peut espérer. Et donc, il y en a 630 qui ont été fabriqués pour le grand public. Ouf.
Alors, c'est-à-dire nous, les pauvres. Excusez-moi de couper parce que je lis là. Si vous roulez en Clio diesel toute pourrie, ne déprimez pas parce qu'il y a 630 unités qui seront disponibles. Hein, voilà, pour le grand public. Hein.
Voilà.
Et pour les sans dents, est-ce qu'il y a des modèles?
Ah, bah là, il n'y a rien. Écoute, tu fais ton appareil photo, tu les prends en photo.
Vous devez faire un chèque de combien là pour
74 490 euros.
75 000.
Voilà, ça c'est pour la série, hein. C'est pas
devient rigolo.
Voilà.
Puis la série, on la rencontre à tous les coins de rue, c'est évident. Donc ça ne vaut pas le coup.
Bon, je ne sais même plus si tu as envie de rouler avec une moto pareille, parce que peut-être
c'est
que tu la
capital,
laisses.
Oui.
Voilà, ça bonifie avec le temps.
Mais je vais continuer à rouler avec ma moto bécane C45S.
Voilà, c'est économique.
Voilà, alors ça c'était page 40. Alors vous tournez la page et vous avez une superbe photo d'un panel de 4 trails routiers. Mais celle qui est mise en avant, c'est la Harley Davidson.
Oui, la Harley, t'as vu,
la 1250.
Alors c'est marrant parce que moi je l'ai essayé cette Harley. Hein, et,
oui, mais t'as essayé le trail.
Oui. Et apparemment, 19 en 19 pouces, oui.
Voilà.
Et le fait d'avoir diminué le diamètre de la roue. Hein,
oui. Mais c'est amusant parce que
ça change son comportement.
L'Africa Twin n'est pas présentée ici, mais c'est exactement ce qu'ils ont fait chez Honda. Hein. La première Africa Twin, elle est sortie, enfin, les nouveaux modèles.
En route 21.
En 21 pouces.
Ouais.
Et après, ils ont sorti il y a quelques années, 5 ans, je crois, ou 4 ans, en 19 pouces.
Oui.
Et là, donc, effectivement, Harley joue un peu la même partition. Et donc, pour ce comparatif, on est allé chercher des motos trail routier. Finalement, on sait bien que des gens achètent du trail, mais qu'en général, ils voient pas beaucoup les chemins.
Hein. Bah de toute façon, la route 21 pouces est forcément moins maniable qu'une roue de 18 ou 17 pouces. C'est physique, ça, c'est l'inertie de rotation.
Voilà. Et donc, les challengers sur ce comparatif, c'est la Triumph Tiger 1200 GT Pro, la BMW S1000 XR et la Suzuki Vestrom 1050 SE qu'on connaît bien, hein, puisqu'on a un de nos potes qui roule avec.
Oui, qui roule. Pour un moment, il ne va plus rouler là.
Pour revenir sur cette Harley Davidson, pour l'avoir essayé, effectivement, caractère moteur, c'est quelque chose. Hein, à partir de 3000, 4000, là vous avez une cavalerie, mais c'est pas la petite cavalerie. Non, c'est
150 chevaux.
C'est 150 chevaux qui vous arrivent en pleine main. Hein. Voilà. Et donc avec un moteur assez délirant. Voilà.
Et donc les qualificatifs de la moto, rapide, sympa et fun. Et donc c'est vraiment ce qu'il y a. Ce qui a plu.
Une Harley fun, c'est quand même. Ça rompt complètement avec le passé.
Voilà, donc vous retrouverez un peu les caractéristiques de chacune. Je note quand même sur la Suzuki, son côté, finalement, c'est la petite des quatre, mais qui tire son épingle du jeu.
Homogène.
Et comme quoi, 107 chevaux quand même, alors que les autres pointent à plus de 150. Comme quoi, il n'y a pas toujours matière de puissance. On peut se faire plaisir avec ce genre de moto. Pour terminer, donc, une énumération de quelques autres modèles qui sont présentés. En matière de sportif, donc, la Yamaha R9. En trail, donc, la Ténéré en version rallye. Et la Touareg Aprilia également en version rallye. Donc vous verrez donc les améliorations qui ont été apportées sur les modèles existants, de l'électronique, l'adaptation à la norme Euro 5+. Quand on lit dans le détail, vous verrez, les ingénieurs sont quand même très forts parce qu'ils vont chercher le petit modificatif pour pouvoir justement passer cette
Christophe. Norme. Voilà, on va passer à un morceau de musique parce qu'il y a Jean-Yves qui voudrait nous parler de la formation continue pour la FDM. Voilà. Et puis aussi de Fête de la Moto.
Exactement.
Qui aura lieu fin juin.
Fin juin, voilà. 21 et 22.
Et si on a le temps, on viendra un petit peu sur les multimédias, là. Mais
sur je pense pas qu'on a le temps.
Pas de problème. Voilà.
Allez, à tout de suite.
Ouais. À tout de suite.
Jean-Yves, on termine cette émission avec l'AFDM.
Oui, enfin l'AFDM en particulier. Mais
je rappelle ce que c'est que l'AFDM.
En général, c'est la formation du motard. Et justement, nous, à l'AFDM, l'Association pour la formation des motards, on est justement spécialisés là-dedans. Dans votre vie professionnelle, vous avez certainement suivi des formations, vous continuez à vous former tout au long de votre vie. Et ben, c'est pas parce que vous êtes en moto que vous ne devez pas le faire. Parce que la moto, c'est les chances de survie sont largement augmentées si vous passez des automatismes dans votre esprit. C'est-à-dire que vous repérez, effectivement, quand vous lisez la route, vous repérez un conducteur avec une casquette qui a la tête un peu penchée. Ça doit allumer dans votre esprit un signal d'alarme. Le mec est en train de téléphoner, donc il n'est pas à ce qu'il fait. Et donc, la formation moto, la conduite moto, c'est exactement pareil. D'abord, si vous avez le permis depuis longtemps, vous avez engrangé un tas de mauvaises habitudes. Si vous avez le permis récemment, on vous a appris des tas de choses. On vous a appris à passer le permis, mais il y a des tas de choses que vous ne connaissez pas. Par exemple, ce qui est arrivé au copain là, qui s'est mangé une flaque de gasoil dans un rond-point. Effectivement, quand il y a un changement de couleur de bitume, ça peut être une occasion de danger. Donc, c'est le, justement, pour une fois, l'Europe fait un truc bien, c'est que justement, avec les instances motocyclistes, ils essaient d'insister sur l'idée de se former régulièrement à la conduite moto. Et ça, ayant une casquette à FDM, je ne peux que féliciter ces initiatives. Autre problème, c'est la fête de la moto organisée par la FFMC 59 le 21 et 22 juin. Alors, c'est une fête de la moto, c'est la 4e édition. Il y a moyen de camper sur place, il y a des commerçants, il y a des animations, il y a la stand FFMC, il y a le stand mutuel, il y aura le stand à FDM également. Et donc, profitez-en pour essayer justement de savoir, vous poser la question. Je sais que je sais conduire, ça fait 20 ans que je conduis, donc essayez quand même de vous remettre en question.
Et c'est la fête de la musique, le 21 et 22.
Ouais,
le 21,
possible, je sais pas.
Si, c'est la fête de la musique.
De la musique.
la musique,
c'est un mégaphone.
C'est important, la musique.
C'est un mégaphone.
C'est
le son d'un mégaphone.
Ils ont prévu quoi comme groupe, la musique, Jean-Yves ?
J'en sais rien.
J'aurais dû te renseigner quand même pour savoir quel groupe était présent.
Je sais que maintenant, il n'y a plus de rassemblement moto sans son orchestre.
Oui, mais là, pour l'occasion, la fête de la musique, c'est important.
Oui, voilà. Si tu veux. Mais
voilà. Bref, c'est à Neuf-Berquin, 21 et 22 juin.
Hein. De 10h du matin à 19h le soir, il y a de la nourriture sur place, etc., etc., comme toute fête. Voilà. Donc, vous pouvez y aller, profitez-en.
Voilà, et puisqu'on parle de musique, moi j'ai une idée, tiens, mais c'est pour vendredi prochain au Zen Motors. Voilà, quand le rock se fait miroir de nos vies, venez découvrir Coyote & Co, un rock qui ne triche pas, un rock qui vous ressemble. Et ça, c'est, je rappelle, c'est vendredi prochain au Zen Motors. Voilà, l'émission se termine, Christophe, merci pour ce sommaire du mois de juin.
Ouais. Je suis impressionné là. Ressembler à un rock.
Un rock, le rock. Le rock, c'est un rock. Voilà. Bon, un rock dur. Hein. Et un rock fort.
C'est dommage qu'on ait pu parler de trucs futiles comme ça.
Oui, on n'a pas eu le temps, parce que là, c'est les multimédias. Achetez Motomag, vous allez voir.
Il faut soutenir la presse écrite.
Oui, voilà. Merci Jean-Yves pour toutes les infos là de la Fédé. Voilà, merci Xavier d'être venu nous voir.
C'est avec plaisir, comme d'habitude.
Et puis, on remercie qui ? Notre ami Laurent, la technique, L'émission se termine, passez un beau dimanche et rendez-vous, dimanche prochain sur les ondes de campus à 11h. Allez, salut, bye !